Pour la fête de Yom HaAtzmaout, j'ai décidé d'inviter un guide de Jérusalem. Myriam Kadouch est en ligne avec nous de Jérusalem. Bonsoir Myriam.
Bonsoir Bernard, bonsoir à tous les auditeurs.
Myriam, nous sommes très nombreux à vouloir exprimer notre solidarité, à vouloir partir, à vouloir participer à des initiatives. Je vous ai demandé de venir nous raconter des endroits qu'on n'a pas l'habitude de visiter, même à la limite qu'on ne connaît pas. Je vais donner un exemple, le musée du livre. Alors on se dit... Il y a le musée d'Israël pour ça. Et donc là, oui. On l'a déjà vu, on est même allé avec les enfants, on a connu, on a vu les rouleaux de la mer morte. Ben, pas du tout. Israël a voulu avoir, dites-moi si je me trompe, sa bibliothèque nationale qui vient d'ouvrir ses portes.
Absolument, absolument. La bibliothèque nationale donc, qui se trouve à Jérusalem, à Givat Ram, à côté justement des institutions publiques, des ministères, parce qu'il y a un lien direct, un dialogue entre les ministères, juste en face de la Knesset, justement, la Knesset qui permet justement l'ouverture du livre. Il y a le musée du livre, il y a le musée d'Israël, la Knesset, c'est tout un complexe qui dialogue les uns avec les autres. Et effectivement, là se trouve la Bibliothèque nationale, qui est un monument très important, effectivement, Bernard, qui vient d'ouvrir ses portes au public et est absolument un endroit extraordinaire, avec une architecture merveilleuse, qui rappelle justement les lettres hébraïques, et qui détient, comme on l'a vu, des trésors extraordinaires, des manuscrits très anciens. Et c'est un lieu qu'il faut absolument visiter. Des visites guidées ont lieu tous les jours, et on peut s'inscrire en plusieurs langues d'ailleurs, et c'est vraiment un endroit à découvrir.
Myriam, c'est un endroit exceptionnel. J'ai eu la chance d'être invité par l'Office du Tourisme, je ne vous cache rien, je l'ai vu ce musée. Il est exceptionnel. On y voit, par exemple, la lettre de juste avant son suicide de Stefan Zweig. Imaginez, des lettres manuscrites de Theodor Herzl. On y voit des choses incroyables, des mégilotes qui datent du 15e siècle. Ce musée est incroyable. On se dit au début, visiter une bibliothèque, franchement, peut-être pas. Et quand on y est, il est juste incroyable. Surtout qu'il a été, il est tout neuf. Il vient d'ouvrir. Je crois que je me trompe pas. Il y a encore la peinture sur les murs de qui est encore toute fraîche.
Absolument, absolument. Oui, des milliers de manuscrits de toute beauté, effectivement, des lettres de Maïmonide retrouvées dans la Gnéda, la Gnéda du Caire. Et puis, bien sûr, vous avez parlé de Stefan Zweig, mais ce qui est très fort à voir, c'est l'écriture de ces penseurs, de ces philosophes, de ces médecins qui écrivent, et on voit à travers l'écriture le caractère de la personne, et c'est vraiment très, très émouvant.
Il y a un autre endroit qui s'appelle Anu. Alors, Anu, en araméen, c'est-à-dire donc dans la langue du Talmud, ça veut dire « nous ». Et là encore, c'est pareil. C'est le musée de la diaspora. Qui se dit aujourd'hui « je veux retourner voir Betat Futsot » ? Eh bien, ce musée a été entièrement rénové sur je ne sais pas combien de centaines de mètres carrés. C'est immense.
Je vous écoute. Absolument. Alors, c'est vrai que si la Bibliothèque nationale à Sifria Léumit est à Jérusalem, le muséon Anu se trouve à Tel Aviv, au nord de Tel Aviv. Vous connaissez, Bernard, certainement l'université de Tel Aviv, et il y a quelques années, il y avait là ce qu'on appelle le Bet HaTfutzot, le musée de la diaspora, qui a fermé ses portes pendant de nombreuses années, et qui vient lui aussi de réouvrir, en début d'année, vient de réouvrir ses portes après des millions de dollars d'investissement, et qui nous présente un nouveau musée, si on peut dire, qui parle de l'histoire du peuple juif sur trois étages, l'origine du peuple juif, la culture juive, bien évidemment, et la base, qu'est-ce que c'est que la culture juive, est-ce que ça existe? Et c'est sur trois étages absolument magnifiques, et ce musée se trouve, alors Anu, comme vous l'avez dit, c'est Anachnu, c'est l'histoire du peuple juif, et qu'est-ce que c'est le peuple juif, et qu'est-ce qu'il a apporté à l'humanité, d'abord à soi-même, et à l'humanité entière, sur trois étages, au centre donc de l'université de Tel Aviv, à Ramat Aviv.
D'ailleurs on dit Anu Madlikin pour Hanouka, ça veut dire nous allumons.
Nous, ça veut dire Anachnu, exactement. Hein? Anachnu, c'est la contraction de Anachnu.
Ou Anu Mevakshim, ou Anu Modim. Alors, je vais continuer à rester un petit peu parce que, dans le monde de la Torah, parce que même là, il y a des choses nouvelles. Les tunnels, par exemple. Les tunnels, c'est quelque chose d'incroyable. On voit des mikvés sous terre. On voit une ville sous terre. Hein. On voit des rues et qui ont été excavées quoi, il y a seulement quelques années, quelques mois.
Alors là, avec vous, Bernard, sur ce thème-là, je crois qu'on revient à Jérusalem. On revient effectivement à Jérusalem. Et là, vous parlez donc des tunnels du Kotel, parce qu'il faut savoir que le mur que nous voyons, c'est environ une soixantaine de mètres, mais ce que nous voyons à l'œil nu, mais ce mur, eh bien, est bien plus profond. Il a une quinzaine de mètres en profondeur. Et quand nous partons dans ces tunnels en sous-sol, eh bien, évidemment, nous traversons une période de temps énorme et cela nous ramène vraiment à l'histoire très, très ancienne. On voit effectivement des mikvahot, des bains rituels, à savoir que les bains rituels commencent à l'époque des Asmonéens. Donc, on a des tunnels de l'époque du 2e siècle avant notre ère et on voit d'autres tunnels. On voit une série, évidemment, de mikvahot qui sont un petit peu plus tardifs, Bernard, de l'époque romaine. Et quand on est dans les entrailles de la terre, on voit toutes ces salles absolument extraordinaires, d'époque romaine en particulier. On voit évidemment l'œuvre du grand roi, ce roi Hérode, ce grand roi, encore une fois avec un grand G, ce roi fou, ce roi mégalomane, ce roi assassin, puisqu'il tuera sa femme et ses enfants, mais qui a laissé une marque incroyable dans l'histoire de Judée, dans l'histoire d'Israël en général, en faisant des constructions extraordinaires et qui a été celui qui construira évidemment le Kotel, évidemment le mur.
Le temple, le deuxième temple.
Alors, il va refaire, on va dire, le deuxième temple et il fera des murailles de soutènement autour du temple, effectivement. Et le Kotel fait partie de ces murailles de soutènement et on voit une partie de ces murailles dans les sous-sols, ce que vous avez visité, Bernard, donc dans les tunnels du Kotel, qui sont absolument extraordinaires.
Extraordinaire. On voit un mikvé et le guide vous dit, vous savez que Rabbi Akiva, il a vu ce mikvé. C'est incroyable. Ici, il y avait Rabbi Akiva. Oui, oui, ça, ce mikvé, là, c'est, d'ailleurs, il en parle. C'est ici, avec de l'eau, hein, c'est pas, on voit pas. Il faut absolument voir ça cet été, pour ceux qui voyagent, et bien avant, d'ailleurs, si l'occasion est faite. Par exemple, le chouk de Jérusalem. En fait, c'est le tracé d'un aqueduc, parce qu'on se doute bien, il y avait des sacrifices sur le temple. Et il faut de l'eau.
Alors effectivement, vous parliez des tunnels. Et ce tunnel que vous avez visité, effectivement, fait partie de ce qu'on appelle en hébreu Rechov David. Pour ceux qui connaissent, ceux qui sont déjà rentrés dans la vieille ville de Jérusalem par la porte de Jaffa, connaissent, puisque dès qu'on rentre par la porte de Jaffa dans la vieille ville, on a devant nous ce chouk, ce souk arabe qu'on appelle Rechov David. Et ce souk arabe était effectivement l'aqueduc qui amenait de l'eau sur le temple, sur les hauteurs du temple. Oui, je parle évidemment du deuxième temple, parce qu'il fallait beaucoup d'eau, évidemment, quand on parle d'un monde de sacrifice, Bernard, et à cette époque-là. Et évidemment, il y a beaucoup de sang qui coule, et il faut nettoyer tout ça. Et c'était donc l'aqueduc qui apportait de l'eau vers le temple de Jérusalem.
Magnifique. Je voudrais aussi dire un mot sur un parc biblique. C'est un projet du gouvernement, bon, c'est un projet éducatif. Il vous montre, pour ceux qui ont la chance d'étudier un peu, on parle dans la Gemara, on parle d'un gat. Pressoir. Ben voilà, regarde, c'est comme ça. Un chicma, un sycomore. Combien de fois on a prononcé le mot sycomore quand on étudie un peu? Oui, voilà, je vais vous montrer. Ça, un chicma, un sycomore, c'est comme ça.
Sycomore en français, chicma en hébreu, effectivement. Un arbre qui est nommé de nombreuses reprises dans la Bible, être un chicma. Mais effectivement, vous parlez là d'un endroit qu'on appelle Neot Kedumim. Neot Kedumim, ancien, et qui est donc un grand, grand parc qui a été mis en place ici par la famille Reuveni pour reproduire, si vous voulez, le paysage biblique. Le monde de la Bible, effectivement, et en se baladant là, évidemment, vous parliez d'un gâte, c'est-à-dire c'est là où on faisait du vin, à l'époque ancienne, là où on faisait de l'huile d'olive très très importante dans l'Antiquité, puisque c'était la lumière, la source de lumière, et également pour l'onction. Vous vous rappelez que dans la Bible, on nous dit que l'onction des rois, des prophètes, également se fait avec de l'huile d'olive, donc l'huile est très très importante, et le Messie également, hein, l'onction du Messie, des rois et des prophètes, et donc l'huile a toute son importance dans le culte et dans le judaïsme, évidemment, et bien sûr dans la vie de tous les jours, un médicament, une denrée nutritive, le moyen d'allumer des lampes à huile. Et donc dans ce parc Neot Kedumim, c'est comment vivaient nos ancêtres dans ce paysage biblique, on va dire comme ça.
Alors, ben voilà, on a donné quatre belles idées pour ceux qui souhaitent faire de nouvelles rencontres cet été en Israël. J'ai vu beaucoup de gens se dire... On s'interroge, il y a la guerre, etc. Moi, je connais bien les auditeurs de Radio Shalom, je connais bien les Juifs de France, en fait. Et beaucoup vont partir. Eh bien, c'est l'occasion de s'instruire. Et Myriam, la voix enrouée, c'est parce que la guide a trop travaillé aujourd'hui ou au contraire, pour Yom HaTzmaout, il y a eu trop de fêtes en bord de mer. Alors, on peut vous poser la question ou pas?
Bien sûr, bien sûr. D'abord, je voudrais réitérer ce que vous disiez, bien sûr, c'est inviter les Juifs du monde entier à venir visiter Israël. N'ayez pas peur, c'est notre pays, c'est votre pays, nous sommes frères. Et au contraire, montrez sa solidarité. Quand on est ici, on se sent, je suis sûr que vous vous êtes senti la semaine dernière, en sécurité ici. Oh. Et au contraire, c'est renforcer nos liens avec Israël. Donc n'hésitez pas à venir. Et vous avez parlé de 4 lieux. Il y a énormément d'endroits à visiter que l'on ne connaît pas. Et je me fais un plaisir, évidemment, de les faire visiter à vos auditeurs. Vous dire un petit peu, vous parler un peu de l'ambiance. Effectivement, ma voix est enrouée parce que je suis avec une mission du Mexique, Mexicanos, qui sont venus, des Mexicains, qui sont venus visiter, soutenir Israël, et qui font un travail extraordinaire, ces Mexicains, au grand cœur. Et je suis donc avec eux, et hier nous avons fait la fête, parce que malgré tout, la Simcha est plus importante que tout. Après Yom HaZikaron, qui a été très triste dans l'ombre du 7 octobre, nous avons quand même fait la fête, et voilà, et la voix est partie, mais...
Elle va revenir. La fête aussi, elle va revenir, vous inquiétez pas. Les Israéliens, voilà. Ils sont très résilients. Michael Kadouch, qui est guide à Jérusalem et dans toute Israël, mais enfin bon, là, qui nous parle de Jérusalem. Merci à vous.
Myriam Kadouch, merci beaucoup Bernard, merci à tous les auditeurs.
Tadarabha,
Velitra. Shalom, shalom, bechag sa mère.
Gamlach.
Rak, ratzmaout sa mère.
Gamlachem, bye.